La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a qualifié sa présentation d'hier d'un nouveau souffle pour Montréal et une nouvelle façon, Marie-France, de voir la mobilité active. En fait, elle annonçait la mise en œuvre d'un très grand projet. Ce sont les 5 premiers tronçons qui ont été annoncés hier du réseau express vélo, le rêve.
Exactement, 31 kilomètres et ça devra être fait d'ici 2021. Comme par hasard, les élections seront en 2021 et c'était une promesse électorale. Donc, il y a vraiment une volonté très idéologique. On va y revenir là-dessus. Une volonté très idéologique derrière. Moi, je suis les deux, je te le disais, automobiliste et cycliste. Une cycliste qui maintenant a peur d'aller au centre-ville comme je le faisais quotidiennement il y a quelques années à peine. La rue Saint-Denis me fait très peur, la rue Sherbrooke que j'empruntais allègrement, je n'oserais plus le faire aujourd'hui. Alors, j'applaudis parce que je déteste les pistes cyclables qui ne sont pas sécuritaires, qui sont extrêmement lentes, qui sont très anarchiques. Tout le monde peut circuler là-dedans et ça se fait vraiment souvent au détriment de la sécurité. Et les autoroutes cyclistes avec leur code, avec la sécurité, avec le nombre, je trouve que c'est une très bonne chose. Ce sera aussi rapide parce que les feux seront synchronisés. Il va y en avoir sur Peel, sur Souligny dans l'Est, sur Saint-Denis, donc du nord au sud, Bellechasse, l'axe Vigée-Saint-Antoine. C'est d'abord transitoire, il n'y aura pas de bordures qui vont protéger, mais par la suite, il y aura éventuellement. Ça vient résoudre un réel problème, celui de tous les petits bouts de pas raccordés de pistes cyclables, un problème de sécurité et de nombre également. C'est un geste, je te le disais, idéologique et politique. C'est une administration, celle de Valérie Plante, qui s'est jamais cachée que la mobilité devait être active, même s'il y a 4 mois d'hiver. Et ça veut dire moins d'autos qui roulent, moins d'autos qui stationnent et moins d'autos éventuellement qui entreront en ville. Sauf que ça se fait, et même si j'applaudis, je te le répète, ça se fait quand même sans dialogue, sans explication, sans sensibilité, et j'entends très bien la frustration des automobilistes qui montent. Je te parlais de problèmes que je vois, même si ce sera formidable pour les cyclistes d'ici peu de temps. Si on est un automobiliste, les axes traversants nord-sud, la ville au complet, au centre de l'île, ils ont été coupés un à un par des sens uniques, par des rues entravées, par des pots de fleurs. Il reste l'axe Saint-Urbain-Saint-Laurent, il restait Saint-Denis et il reste Papineau. Quand il n'y a pas d'accident, quand il n'y a pas de feu, quand ça fonctionne bien. Clairement, est-ce qu'on va fermer Saint-Denis? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce qu'on va entraver la circulation d'une ou de deux voies? Est-ce que pour
Ce serait, semble-t-il, deux voies, une de chaque côté.
Oui,
c'est énorme.
C'est énorme, effectivement. Est-ce qu'on va laisser les stationnements? Les bus, j'entendais un chauffeur de bus parler à Paul ce matin. Comment vont-ils faire? Est-ce que la circulation de vélos va se faire au centre de la chaussée ou sur les côtés? Auquel cas, c'est un réel problème pour les bus. Est-ce que c'est logique de faire ça sur un des 3 seuls axes nord-sud qui restent dans le centre de l'île de Montréal?
Et une autre chose importante, est-ce qu'il est logique de faire une piste cyclable 365 jours par année à Montréal?
Oui, il y a toujours des gens qui vont utiliser le vélo l'hiver, mais c'est une minorité,
là,
on s'entend. Et ça nous amène à parler de la rue Saint-Denis, qui est déjà à moitié morte. Quel avenir veut-on? On dit que oui, le cyclisme rapporte dans les commerces, mais ce n'est certainement pas le même genre de commerce et le même genre de dépenses. Nos rues commerçantes sont dévitalisées en ce moment au profit de la banlieue. Il n'y a rien de ça, le projet concernant Saint-Denis, qui est clair, ou on ne l'a pas expliqué, ou on n'y a pas pensé. J'ose même pas croire qu'on n'a pas pensé à ça. Et ça m'amène aux effets pervers. Il va y avoir le fait qu'on n'ait pas parlé, qu'on n'ait pas dialogué avec les automobilistes qui ont quand même le droit d'exister et qui sont quand même encore un peu nombreux. Ça va amener de la frustration des automobilistes, beaucoup d'agressivité envers les cyclistes. Et si tu as des autoroutes cyclistes, comme par exemple la rue Saint-Denis, et je maintiens que les autoroutes cyclistes sont une bonne chose. Comme cycliste, est-ce que tu vas te faire frôler, klaxonner si tu empruntes Saint-Hubert ou Saint-Laurent ou Berry? Est-ce qu'on va exiger que tous soient sur les autoroutes? Est-ce que les automobilistes vont penser qu'un cycliste hors autoroute est un cycliste qu'on peut accrocher, qu'on peut klaxonner? La question de l'attitude va être vraiment intéressante à suivre. Bref, on est dû pour une grande explication entre cyclistes, villes, automobilistes. Je réclame du respect pour les automobilistes ou un dialogue ouvert et respectueux et une très bonne campagne de relations publiques parce que ça ne peut pas être que de l'idéologie, ce projet-là, qui est extrêmement valable, mais qui ne peut pas se faire si on boude ou on néglige ou on méprise les automobilistes.
Tout à fait d'accord. Et je suis certain qu'il y a bien des automobilistes qui se posent la question à savoir comment la rue Saint-Denis va devenir un axe important pour se déplacer dans
oui,
le sud. C'est
exactement.
Ça. C'est
oui.
ça la grande question.
Il va en rester deux, en fait.
Oui.
Il va en rester deux. Et on a beaucoup, beaucoup coupé sur le plateau. Il y avait Brébeuf qui permettait d'être une espèce de voie de déviation.
Oui.
Moi,
c'est ça que j'emprunte quand je parle. Là,
mais,
ça,
mais tu ne peux plus le faire du nord au sud.
Non.
Tu ne peux plus, ça a été entravé.
Je sais. Puis nous autres, bon, évidemment, je partais du nord complètement. Donc, un bout sur Christophe Colomb, sur la rue parallèle. Puis après ça, on descendait. Et le point d'entrée, là, pour Montréal, c'était le parc La Fontaine.
Ça,
par Brébeuf.
Oui, ben ça a été entravé. Christophe Colomb a été entravé. Bref, il en reste très peu.
Et je suis d'accord avec toi que c'est dangereux de se déplacer est-ouest, près du centre-ville de Montréal.
Oui, ça, Sherbrooke, ce sera à venir. J'aurais apprécié que Sherbrooke ait une piste cyclable. Tu me diras, il y a celle de Maisonneuve, mais elle déborde complètement. Mm. Elle n'est pas très, très sécuritaire. Et Sherbrooke est certainement un axe qui aurait fait plaisir aux cyclistes. Mais c'est probablement dans un deuxième temps. Mais ce sera fait avant les élections. Et c'est clair qu'elle s'adresse à sa base électorale en faisant ça, Valérie Plante. Très, très clair.
Alors, évidemment, la nouvelle du jour, la juge Hélène DiSalvo, qui a accordé une peine de 2 ans moins un jour à Michel Cadotte, reconnu coupable d'homicide involontaire en février pour avoir étouffé sa femme souffrant d'Alzheimer. Il s'en occupait depuis 9 ans. Mm. La défense avait dit cet homme était en dépression. Il était atteint de dépression. Il ne supportait plus de la voir souffrir. Et elle était dans cet état, je le rappelle, depuis 9 ans.
Exactement. La couronne réclamait 8 ans de prison, la défense de 6 à 12 mois. Et la juge a donné 2 ans moins un jour, ce qui fait que ce sera une incarcération ferme, mais dans une prison provinciale. Et comme il a déjà purgé quelques mois, il lui reste en fait 15 mois et il pourrait être éligible à une libération conditionnelle quand même assez rapidement. Ce qui fait que c'est une sentence basse, mais avec incarcération ferme. On est plus proche de la clémence que ce que la couronne voulait avoir, mais la juge DiSalvo a bien dit « Attention, ce n'est pas un héros, Michel Cadotte », et elle a très bien, la juge Gibault à ton micro disait « C'est vraiment la personne qui a été jugée et non pas la cause, l'aide médicale à mourir pour les cas d'Alzheimer », et c'est très, très important ce qu'elle disait là. Je trouve que la juge DiSalvo, en donnant cette sentence très claire, mais relativement basse, envoie un message aux législateurs, envoie un message aux politiques. Elle dit, d'une certaine manière, vous allez devoir réfléchir, vous allez devoir intervenir. Ce n'est pas à nous, les tribunaux, puis son jugement était très long, ce n'est pas à nous, les tribunaux, de sanctionner à votre place. Et donc, elle retourne la décision, ou la réflexion, en tout cas, entre les mains des députés, parce qu'on sait très bien, ça n'existe pas, la peine de mort par compassion. Donc, c'est un meurtre qui a souligner les limites de l'aide à mourir. Et on sait très bien aussi qu'on ne sait pas tout sur l'Alzheimer, sur la fin de vie, sur les stades avancés de l'Alzheimer. On espère toujours un médicament, un vaccin, un cocktail de médicaments qui fasse que ça se passe mieux. C'est toujours notre police d'assurance, c'est toujours notre espoir par rapport à cette maladie-là. Mais entre-temps, il y a une espérance de vie qui allonge et pas nécessairement en santé. À 80 ans et plus, 33% des personnes souffrent d'Alzheimer ou de démence. Il va donc falloir, comme société, qu'on se la pose la question et qu'on se la pose aussi individuellement. Est-ce qu'on veut, comme personne, dans une famille, par exemple, où il y a beaucoup de cas d'Alzheimer, est-ce qu'on veut éventuellement vivre ou surtout mourir comme ça? Il y a toutes ces questions-là que, d'une certaine manière, et je ne pense pas que... En fait, je pense que des Michel Cadotte, il va y en avoir d'autres. Il n'y en aura pas légion,
oui, mais
je pense qu'il va y en avoir d'autres. Et il faut prévoir le coup.
je suis d'accord avec toi qu'elle a utilisé, la juge Hélène DiSalvo, des propos, moi, qui m'ont étonné. Elle a dit « quasi-meurtre ».
Oui.
Il me semble qu'il y a quelque chose de contradictoire. C'est parce qu'elle notait comment le sujet est sensible. Nicole Gibeault était d'accord. On a fait des progrès considérables au Québec, même plus que n'importe où en Amérique du Nord, sur la question de mourir dans la dignité.
Mm-hmm.
La prochaine étape, bon, Marie-France, je pense qu'il faut se pencher du point de vue politique sur les aidants naturels.
Absolument.
C'est pas seulement une déclaration lors du dépôt du budget où on dit « il y a maintenant de l'argent qui est supplémentaire, qui est débloqué ». Non, il n'y a pas juste de l'argent. Il y a des aidants naturels qui sont dépassés. Dépassés par leur incompétence, malheureusement, à pouvoir traiter des cas. Le pauvre Cadotte, 9 ans, seul, jusqu'à arriver au point de rupture. Et tu as raison, il va peut-être en avoir d'autres.
Oui. Alors, il faut vraiment réfléchir comme société. Le législateur doit réfléchir là-dessus.
Oui, on parlait sur l'aide naturelle. Et Chloé Sainte-Marie le crie sur depuis des années.
Ah oui, c'est vraiment son combat. Oui.
Ah bien, avec raison. Oui. La cause des aidants naturels, c'est pas seulement de renvoyer un chèque une fois par année quand le ministre des Finances dépose le budget.
Exactement. Et on parlait, pour finir rapidement, la semaine passée, on parlait du cas de Vincent Lambert en France. Et la France commence à songer à inclure donc dans le droit à mourir dans la dignité, commence à penser à inclure les cas d'Alzheimer aussi. Donc, on ne serait pas les seuls si on s'y intéressait ou en tout cas si on se questionnait, mais comme société, on ne peut plus faire l'impasse là-dessus.
Merci beaucoup, Marie-France. À demain. Au revoir.